Je relis un poème de Fernando Pessoa que m'a soufflé mon invité d'aujourd'hui. Par un jour excessivement clair, jour où perçait l'envie d'avoir beaucoup travaillé afin de ne pas travailler du tout en ce jour, j'ai entrevu, comme une route entre les arbres, ce qui est peut-être le grand secret, le fameux grand mystère dont les faux poètes parlent. J'ai vu qu'il n'y a pas de nature, que nature n'existe pas. Il y a collines, vallées, plaines, il y a arbres, fleurs, herbages, il y a rivières et pierres, mais qu'il n'y a pas un tout auquel tout cela appartient, qu'un ensemble réel et véritable est une maladie de nos idées. La nature est partie sans un tout. Voilà peut-être le mystère en question dont il parle. Voilà ce que, sans penser, en passant, j'ai mis ma main au feu que ça devait être la vérité. Que tous se mettent en peine de trouver et qu'ils ne trouvent pas. Et que moi seul, pour ne pas être allé la chercher, ai trouvé. C'est un poème de Fernando Pessoa que mon invité d'aujourd'hui m'a soufflé. Et c'est une belle façon de commencer.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle idée mon invité d'aujourd'hui se fait-il de la nature? Professeur émérite au Collège de France, il est considéré comme l'une des grandes figures de l'anthropologie. Dans son livre « Par-delà nature et culture » paru il y a 17 ans, il interrogeait la construction de l'idée de nature comme fondement de la modernité. « Composer les mondes », c'est le nom du très beau documentaire itinérant que consacre Elisa Lévy à sa pensée. Il est projeté de ville en ville dans toute la France, l'occasion notamment d'évoquer les défis écologiques et environnementaux auxquels l'humanité fait face et de réfléchir à de nouvelles façons d'habiter le monde. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je me suis demandé quand, pour la première fois, est-ce que vous avez compris que la nature n'existait pas, que c'était, comme le dit de façon très belle Fernando Pessoa, une maladie de nos idées.
Oui, l'expression « maladie de nos idées » est remarquable. On voit la supériorité des poètes sur les malheureux universitaires dans mon genre, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que la nature n'existe pas. Et plus exactement, c'est arrivé, je le raconte au début de mon livre « Par-delà nature et culture », ça m'est arrivé au bord d'une rivière en Haute-Amazonie. La personne qui nous hébergeait, ma femme et moi, dans une maison, c'était un Amérindien, un Atchouar, était bouleversé parce que sa femme venait d'être mordue par un serpent. Et on lui avait fait une injection, parce que nous avions du sérum. Et il me disait, c'est ma faute, j'ai tué trop de singes hier. Et alors on a commencé une discussion, et pour essayer d'apaiser son angoisse, je lui ai dit, mais c'est normal, dans la forêt, tout le monde chasse tout le monde. Mais il me dit, non, mais les singes, vous savez, c'est des personnes, ils sont comme nous, ils ont des rapports de parenté, et donc on peut en tuer de temps en temps, si on a l'autorisation du maître du gibier, mais si on en tue trop, eh bien, tout fiche le camp. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas de la nature dont il parle, c'est de tel ou tel singe qu'il a tué. Et au fond, j'étais venu dans cette collectivité pour essayer de comprendre la façon dont les Atchouars, dont les Indiens en Amazonie interagissent avec leur environnement. En fait, je m'apercevais qu'il n'y avait pas de nature extérieure aux humains, mais que au jour le jour, ils entretenaient des rapports compliqués de quelquefois d'hostilité.
Alors, il faut nous expliquer, Philippe Descola, cette idée de nature, quand et comment est-ce qu'elle est née?
Alors, c'est une longue affaire qui commence bien évidemment en Grèce. Beaucoup de choses commencent en Grèce.
Comme souvent,
avec cette idée qu'il y a en particulier des plantes ou des animaux qui ont une nature propre. Hein. Ils ont quelque chose qui les définit en tant que tel. C'est leur nature. Et peu à peu, avec certains philosophes, en particulier Aristote, cette idée s'est développée. Et a été transformé par le christianisme, par l'idée d'une extériorité entre le créateur et le créé. Et au XVIIe siècle, la notion de nature telle que nous la connaissons à présent, c'est-à-dire un ensemble de non-humains vis-à-vis desquels les Européens, puisque c'est en Europe que ça s'est développé, on sont dans une position de surplomb, de contrôle, quelquefois de jouissance esthétique. Cette idée a comme a véritablement pris corps dans les élites intellectuelles, mais on la retrouve beaucoup plus tôt, déjà dans les images, à partir du XVe siècle. C'est l'objet de mon dernier livre, Les formes du visible, où j'essaye de montrer que ce que j'appelle le naturalisme, au fond, surgit dans la vision des peintres bien avant d'être thématisé par les esprits, des grands esprits, des philosophes, Descartes, Newton,
etc. Ce que vous montrez, c'est que c'est au fondement de notre modernité, de nos sociétés dites modernes, en fait.
Oui, c'est l'architecture métaphysique de la modernité est fondée sur l'idée de nature et sur le fait que cette idée de nature permet, par contraste, de définir tout le reste, c'est-à-dire nature et société, nature et culture, nature et histoire, nature et art, etc.
Et alors, Philippe Descola, quel est le prix à payer pour cette modernité, pour cette idée de la modernité ?
Alors, le prix à payer, il est tout à fait net, c'est l'extériorité de la nature, c'est-à-dire le fait que ce soit considéré comme une ressource, oui. Et que par conséquent, cette ressource, on peut l'exploiter de façon effrénée, et puisqu'elle sert au bien-être des humains. Et ce point de vue qui introduit une distance vis-à-vis des non-humains, vis-à-vis des plantes, des animaux, mais aussi des rivières, des montagnes, des forêts, etc., a comme conséquence précisément cette extraordinaire et frénétique exploitation dont on mesure maintenant toutes les conséquences, à la fois bien sûr sur le plan de la pollution des airs, des eaux, des sols, mais aussi évidemment du réchauffement climatique, de la sixième extinction des espèces, etc.
Au fond, dans quel monde est-ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui?
Alors moi, je vis dans des mondes, dans plusieurs mondes à la fois, et c'est ça peut-être l'avantage d'un anthropologue, c'était que je vis en partie dans le monde que j'ai découvert lorsque jeune chercheur, je suis parti en Amazonie et je continue à y vivre d'une certaine façon parce que par la pensée en tout cas, mais je vis aussi dans les mondes que d'autres civilisations nous offrent parce que je lis. L'enquête ethnographique n'est pas le seul fondement sur lequel des chercheurs comme moi fondent leurs propositions. Il y a aussi la lecture bien de textes historiques ou bien de textes ethnographiques produits par d'autres. Et donc j'ai le plaisir de vivre et le bonheur de vivre dans plusieurs mondes différents. Mais lorsque je redescends dans le monde au quotidien, je vois un monde très appauvri, à la fois par la difficulté que nous avons à nous sentir comme des éléments d'un tout, alors qu'il suffit de penser que nous hébergeons nous-mêmes dans notre organisme des milliards de micro-organismes qui nous font tels que nous sommes. Autrement dit, cette arrogance du sujet occidental qui dit « je pense donc je suis mais je pense en partie parce que des milliards de bactéries dans mon microbiote m'aident aussi à penser. »
J'ai l'impression à vous lire, Philippe Descola, qu'il y a sinon une amertume, du moins une tristesse parfois. J'ai l'impression que ce que vous nous dites à demi-mot, c'est que cette transition écologique dont on nous parle, que l'on nous promet, c'est pas pour demain, c'est pas non plus pour après-demain.
Ah, c'est pas de la tristesse, non, c'est quelquefois de la rage. C'est assez souvent aussi une motivation à faire changer les choses. C'est-à-dire, je suis admiratif de manière alternative de vivre la condition humaine telle qu'il se déploie non seulement dans des civilisations lointaines dont j'ai eu plaisir de partager la vie, mais aussi tout près de chez nous. Et le film que vous mentionnez d'Elisa Lévy se passe en partie dans une de ces communautés alternatives, dans la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, où des jeunes souhaitant au départ lutter contre un aménagement absurde et inutile, ont décidé de mener une vie différente,
et d'expérimenter une nouvelle façon d'habiter.
Il expérimentait une nouvelle façon d'habiter, c'est-à-dire non seulement dans les liens entre humains, c'est-à-dire en essayant de supprimer l'idée de profit, l'idée de faire de l'argent en produisant de la marchandise, fonder donc une existence fondée sur la solidarité, mais aussi en s'identifiant très profondément aux plantes, aux animaux, au milieu de vie. C'est une zone humide, Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone de bocage, et selon la belle formule que les zadistes emploient, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est-à-dire, au fond, nous sommes partis d'un tout, comme nous revient exactement à ce que disait Pessoa tout à l'heure, avec un magnifique bonheur d'expression.
Au fond, Philippe Descola, qu'est-ce que ça veut dire habiter ?
Alors, habiter, c'est un très beau mot, hein, habiter. Humboldt, le fondateur de la géographie, ce grand cosmographe qui a parcouru l'Amérique latine au XVIIIe siècle, disait, au fond, toute ma recherche a consisté à tenter de comprendre les conditions d'habitabilité progressive de l'espèce humaine. Et on s'aperçoit, donc c'est un projet géographique, hein, comment est-ce que les humains, au fond, ont rendu la Terre plus habitable. Et on s'aperçoit deux siècles après que c'est le contraire qui s'est passé. Oui. Ils ont rendu, les humains, la Terre de plus en plus inhabitable. Et pourquoi ? Parce que, précisément, ils ont considéré que l'ensemble des non-humains, des plantes, des animaux, encore une fois, étaient surtout des ressources. Et ces ressources, en les exploitant de façon effrénée, ont mis en péril des grands équilibres écologiques de la planète, dont nous mesurons maintenant, effectivement, la disparition. Mais habiter, c'est habiter en ayant le sens de ce qui nous lie à autre chose qu'à nous-mêmes. À la fois à nous-mêmes comme sujet, comme individu, mais à nous-mêmes aussi comme humain. C'est-à-dire être constamment conscient que nous sommes un élément d'une totalité plus vaste et que chacun de nos actes, prendre un verre d'eau par exemple au robinet, a des conséquences dont nous devons prendre conscience.
Vous savez qu'il y en a une dans cette émission qui habite littéralement et qui habite l'émission, c'est la culture. Philippe et son actualité nomade. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 31 mars ?
Houston, you have a problem. You see, I promised my little girl that I'd be coming home. Now, I don't know what you people are doing down there, but we got a hole to dig up here.
Le comédien américain Bruce Willis met fin à sa carrière. C'est sa femme qui a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Hier, elle révèle que l'acteur souffre d'aphasie, une maladie qui impacte ses capacités cognitives. Bruce Willis, depuis le milieu des années 80, c'est près de 150 films, souvent d'action, mais pas que, parmi lesquels Pulp Fiction, Sixième Sens, Le Cinquième Élément, Armageddon, la saga Die Hard, sans oublier la voix d'Allô Maman, Ici Bébé, Beauté.
Cheval, pas, blanc, Will.
Sa bulle, à Bastia, la cité corse accueille jusqu'à dimanche la 29e édition de ses rencontres de la BD. Au programme, une vingtaine d'auteurs, parmi lesquels Alfred, Nicolas de Crécy ou Juliette Mancini, et une dizaine d'expositions à découvrir dans plusieurs sites de la ville. On profite notamment de la rétrospective Hugues Micole au musée de Bastia ou de l'accrochage onirique d'Hélène Ousdine à l'Arsenal. C'est pas mal.
Bienvenue dans cette belle maison qu'est l'Opéra de Paris.
366 levées de rideaux, 30 propositions dont 14 créations. Hier, Aurélie Dupont et Alexander Neff ont dévoilé le programme de la nouvelle saison de l'Opéra de Paris. On retiendra la mise à l'honneur des femmes, notamment les metteuses en scène Lydia Steyer, Deborah Warner et Valentina Carrasco. Côté ballet, Wayne McGregor, Kenneth MacMillan et Pina Bausch seront aussi de la partie, tandis que 3 soirées hommage à l'étoile Patrick Dupont seront organisées en février. On a hâte de voir ça. Hein.
Mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune.
Objectif Lune. L'artiste Jeff Koons a annoncé qu'il voulait envoyer un groupe de sculptures sur la Lune, baptisé Moon Phases. Le projet prévoit que chaque œuvre soit associée à une NFT qui sera ensuite vendue sur Terre et dont une partie des bénéfices sera reversée à Médecins Sans Frontières. Aucune information sur la taille, la forme ou les matières des sculptures n'a été divulguée pour l'instant, mais quand on se souvient du rififi provoqué par l'installation du bouquet de tulipes à Paris, on se dit que ça promet de swinguer chez les luniens. Affaire à suivre. L'anthropologue Philippe Descola, invité de Boomerang ce matin pour élargir un peu notre façon de regarder le monde. À la rentrée dernière, vous avez fait paraître ce nouveau livre, Les formes du visible, où vous vous intéressez, c'est passionnant, aux images que produisent toutes les sociétés, qu'elles soient naturalistes, comme la nôtre, vous le disiez, totémistes, ou encore animistes, ce besoin pour les communautés humaines de créer des images. Comment il s'explique, Philippe ?
C'est un besoin de figurer. Et figurer, ça veut dire rendre visibles des choses qui ne le sont pas toujours. Et qui sont parfois des choses extrêmement abstraites. C'est-à-dire pas simplement représenter quelque chose qui existe là, mais représenter avec des techniques qui sont quelquefois tout à fait singulières. Je vais prendre un très bref exemple. Depuis le 15e siècle, nous avons pris l'habitude en Europe de représenter des choses qu'on va définir de façon comme étant réalistes parce que nous avons privilégier un seul point d'observation. Évidemment, la manifestation la plus claire, c'est la perspective monofocale inventée en Italie à la Renaissance. Mais la plupart des autres civilisations n'ont pas fait ce choix. Elles ont fait le choix de représenter des objets ou des scènes en prenant des points d'observation simultanément différents. Autrement dit, pour représenter le plus grand nombre de qualités possibles d'un objet.
Ça veut dire qu'une image, c'est une façon de regarder le monde, en fait.
C'est-à-dire que c'est pas une façon de regarder le monde, c'est le seul moyen que nous avons de savoir la façon dont les gens regardent le monde. Et c'est, de ce point de vue-là, très important, parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce que un individu, un collectif, une civilisation va sélectionner dans son environnement immédiat ou dans son fort intérieur pour comme étant significatif, pertinent, intéressant.
Alors cette façon qu'on a nous, Philippe Descola, d'envisager l'image, société occidentale, qu'est-ce que ça dit de notre regard, de la façon dont sans même nous en rendre compte, nous regardons le monde?
Alors, on revient à l'exemple de la perspective, l'exemple parce que c'est un exemple très classique. C'est un monde qui est structuré, ordonné, à partir d'un regard. C'est donc un monde qui est complètement objectif, parce qu'il est construit avec une géométrie tout à fait singulière, mais il est complètement subjectif, parce qu'il est observé par un individu, c'est-à-dire la construction perspective, c'est le regard que porte un individu sur le monde et le point de fuite est entièrement défini par son regard. Donc c'est quelque chose de tout à fait singulier parce que ça met en avant deux caractéristiques du naturalisme. D'une part, le fait que les humains sont les seuls à avoir une intériorité distinctive, si l'on veut dire. Ainsi, c'est-à-dire une âme, un esprit, un cogito, pour parler comme Descartes, etc. Mais que le monde est rationnellement ordonné à partir de cet esprit. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier. Ça n'existe nulle part ailleurs.
C'est quand même très intéressant. Mais est-ce que regarder autrement, Philippe Descola, alors, c'est quelque chose qui s'apprend, que l'on peut apprendre?
C'est quelque chose qui doit être enseigné, surtout. C'est-à-dire que nous avons, au fond, le sentiment, même si ça n'est pas toujours formulé ainsi, que ce qu'on appelle l'art occidental, c'est-à-dire une certaine façon de figurer précisément, qui s'est fractionnée d'ailleurs à partir du début du XXe siècle, à partir du cubisme, mais que cette façon de figurer est en quelque sorte le parachèvement de nombreuses tentatives plus ou moins réussies de figurer le monde. Alors qu'en réalité, c'est une alternative. Toutes les façons de figurer sont des alternatives, aucune n'est plus légitime qu'une autre. Et apprendre à regarder des images, c'est apprendre à regarder ce qui, dans des images qui ne répondent pas à nos canons, à nos codes, ce que ces images présentent d'intéressant des mondes que les gens qui les ont faites figurent.
Donc c'est apprendre à aller constamment contre sa pensée, contre ses intuitions.
Ah mais ça, je pense que c'est fondamental. D'abord, c'est un mécanisme. Je vais faire un plaidoyer pour ma paroisse. Hein. Les anthropologues, c'est leur métier d'aller contre leurs intuitions. Ils sont aidés en cela par le fait qu'ils sont immergés dans des mondes dont les codes et les institutions sont très différentes des leurs et que par conséquent, ça les amène à avoir un regard réflexif sur leur propre civilisation. Mais c'est un travail qu'il faut faire en permanence. On dit toujours que c'est le rôle du philosophe, au fond, d'avoir un regard naïf sur le monde de façon à se déprendre de ses illusions. Mais je pense que chacun d'entre nous devrait se livrer à ce travail de réflexif en permanence.
Et surtout aujourd'hui, Philippe Descola, et c'est la raison pour laquelle je vous invite, parce que cette réflexion passionnante autour de l'image et du regard, elle est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, les images n'ont jamais été aussi présentes dans nos vies par l'intermédiaire des écrans qui sont absolument partout. Cette omniprésence des images, qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous d'un point de vue anthropologique ?
Alors, c'est intéressant de voir que plus les images sont présentes, moins elles sont diverses. Hein? Les images que l'on observe en permanence, c'est-à-dire celles sur, qui apparaissent sur nos écrans de téléphone ou de télévision ou dans les photographies des magazines, sont le prolongement de cette grande ambition naturaliste qui a commencé au XVe siècle d'émuler la vision humaine. C'est-à-dire qu'elle montre ce que voit un humain, mais c'est avec les codes de la vision humaine. Mais cela dit, on n'apprend pas à les regarder, c'est-à-dire on n'apprend pas, j'entends les consommateurs au quotidien, n'apprennent pas les codes spécifiques de production de ces images et donc sont... en quelque sorte trompé. Alors, on est toujours trompé par les images d'une certaine façon, et c'est peut-être leur rôle, hein, c'est de nous faire voir des choses que le discours ne permet pas de représenter de manière très explicite, mais il faut les prendre néanmoins avec un grain de sel lorsqu'elles cherchent à nous tromper de façon systématique.
Alors se pourrait-il, Philippe Descola, que trop d'images, trop de représentations, les mêmes, viennent renforcer cette dichotomie entre nature et culture, viennent nous couper de plus en plus du vivant?
Alors ça dépend beaucoup du type d'image précisément. Je disais tout à l'heure que les images au XVe siècle ont dévoilé un nouveau monde qui n'a été thématisé dans les textes que deux siècles plus tard. Eh bien, nous sommes, je pense, dans une situation analogue. À partir du début du XXe siècle, les imagiers européens ont commencé à produire des images qui ne correspondaient plus au code figuratif du naturalisme, et ce mouvement n'a cessé de s'amplifier depuis, pour certains d'entre eux en tout cas, des imagiers. Et le résultat, c'est que peut-être que de la même façon que les artistes de la Renaissance ont préfiguré un monde à venir, peut-être les artistes contemporains préfigurent un monde qui va être très différent de celui qui nous était familier, et en particulier un monde dans lequel nature et société ne seront pas aussi séparées qu'elles le sont à présent.
On va reparler ensemble de nature, de vivant, juste après les Beatles, Mother Nature's Son, sur le White Album en 68. Vous êtes sur France Inter avec Philippe Descola. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Born a poor young country boy, Mother Nature's Son. All day long, I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
On est quelque part entre le personnage de dessin animé ou de bande dessinée, Franklin, le loup de mer, ou le poète, le cheveu blanc, arctique, la barbe soyeuse, le regard bleu Tahiti, le sourire amen. Il fait partie de ces gens dont on aurait aimé croiser plutôt le chemin. Il est inspiration ce matin, avec son pull bleu et sa chemise bleue, la même couleur, l'anthropologue Philippe Descola, invité de Boomerang, pour parler d'aujourd'hui, mais aussi pour revenir quand même sur votre parcours. Philippe, à quel moment est-ce que, vous qui avez commencé par la philosophie, vous êtes-vous tourné vers l'anthropologie?
Alors, j'avais commencé très tôt, j'ai découvert Triste Tropique, évidemment, ce grand livre de Claude Lévi-Strauss. Je devais avoir 16 ou 17 ans et le livre m'avait impressionné, pas tellement pour l'aspect ethnologique que pour le caractère extraordinaire du personnage, de cet auteur d'une biographie intellectuelle qui pouvait aussi bien parler de ses expéditions parmi les Indiens du Brésil que de Chateaubriand, de Debussy. Enfin, c'était l'honnête homme parfait, et je me suis dit, si être ethnologue, c'est être quelqu'un de ce calibre, c'est peut-être pas une mauvaise profession à embrasser.
En quoi l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss a-t-elle marqué l'histoire de cette science humaine?
Elle l'a marqué de différentes façons, mais je pense que pour répondre simplement, elle l'a marqué parce qu'elle a mis l'accent sur le fait qu'aucun phénomène, aucune institution n'a de sens en soi. C'est un phénomène ou une institution n'a de sens que comparé, contrasté avec d'autres phénomènes, d'autres institutions. Un mythe en soi, c'est peut-être très intéressant et peut-être ça sollicite l'imagination, mais si on veut le comprendre véritablement, il faut le décomposer et chacun des éléments le comparer avec d'autres éléments dans d'autres mythes ou dans d'autres sphères du savoir, en histoire naturelle, etc. C'est donc cet accent qui est mis sur la différence.
Alors, vous avez marché littéralement hein, sur ses pas, puisque vous êtes vous aussi parti en Amazonie. C'était au milieu des années 70, vous l'avez un peu mentionné, chez les Varroachois en Équateur. Quand vous êtes arrivé là-bas, quel monde est-ce que vous avez découvert, Philippe Descola?
Il a fallu du temps pour le comprendre, ce monde. D'abord, évidemment, l'exotisme massif de la vie dans la forêt, avec une population qui n'avait accepté les premiers contacts pacifiques que peu de temps auparavant. Donc c'est tout un façonnement dans son corps, dans ses habitudes de vie, dans ce que l'on mange.
Vous trouvez les clés, en fait.
Oui, mais les clés, il faut du temps pour les trouver, et elles passent par le langage. Et lorsque, avec ma compagne Anne-Christine Taylor, nous sommes arrivés, nous ne connaissions pas la langue, et donc il a fallu pas mal de temps pour la saisir, et peu à peu, un peu comme dans... Vous savez, quand vous regardez un film dans une langue étrangère que vous ne connaissez pas, que des bribes de sous-titres apparaissent, petit à petit, des choses se sont dévoilées. Il a fallu plusieurs mois et en fait plusieurs années pour réalité comprendre le monde au sein duquel nous avions débarqué et qui petit à petit est devenu une partie du nôtre.
Ce monde, Philippe Descola, en quoi aujourd'hui est-il très clairement menacé ?
Alors il est menacé bien sûr par la diffusion de notamment des images de toutes sortes de façons non classiques, non traditionnelles en quelque sorte de voir le monde, mais surtout il est menacé en Amazonie et ailleurs dans toute la zone intertropicale, mais aussi sous les latitudes les plus septentrionales, par la destruction des milieux de vie, tout simplement.
Oui, en février, la déforestation a de nouveau battu un record en Amazonie. Certains scientifiques prédisent qu'elle risque bientôt de cesser d'être une forêt tropicale et de se transformer en savane. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ?
On en est arrivé là par le désir de satisfaire des nécessités immédiates et évidemment par l'intermédiaire de grands propriétaires terriens qui envoient des milices pour couper la forêt. Et c'est complètement suicidaire parce qu'en réalité, la forêt est d'abord transformée en pâturage. Les pâturages, ce sont des sols qui sont très pauvres. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont pas des sols du type de ceux qu'on trouve précisément en Ukraine, le grenier à blé de l'Europe. Ce sont des sols très pauvres qui s'abîment très facilement. On met des vaches là, et puis ensuite, grâce à des quantités considérable d'intrants, de transformation des sols par des processus chimiques, on va transformer ces zones en monoculture, par exemple de soja, qui servent à alimenter nos propres animaux domestiques. Autrement dit, nous sommes en partie responsables de la déforestation d'Amazonie. Mais je voudrais ajouter quelque chose. L'Amazonie a été en partie fabriquée par les humains. En ce sens que du fait des techniques culturales, là encore je ne vais pas rentrer dans le détail, que les Amérindiens pratiquent depuis qu'ils ont domestiqué des plantes il y a plus de 8000 ans dans cette région du monde, ces pratiques culturales ont abouti au fait que la forêt a changé sa composition. Et donc la forêt amazonienne actuelle est un méga jardin, si vous voulez. Oui. Et de ce fait, lorsque nous détruisons le naturalisme, si vous voulez, les grands propriétaires terriens détruisent la forêt amazonienne pour nourrir nos cochons, eh bien, nous détruisons non seulement une forêt climatique admirable, mais nous détruisons le produit de millénaires de travail, de transformation d'un écosystème, d'un milieu de vie.
Merci Philippe Descola pour tous ces éclairages, pour ces regards autres. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le film d'Élisa Lévy, Remarquable, Composer les mondes, qui met en lumière votre pensée, poursuit son itinérance, sera présenté le 6 avril à Amiens, le 7 au Mans, le 8 à Vannes. J'invite également les auditrices et les auditeurs à se plonger dans votre dernier livre, Les formes du visible, qui est paru en septembre dernier, qui est publié au Seuil. Tout de suite les médias, Sonia De Villers et son Instant M, c'est juste après ça. Léonie Pernet, les chants de Maldoror, il est 9h40 sur France Inter. Sonia De Villers, l'Instant M. Salut Sonia.
Salut Augustin. Eh ben, on se retrouve demain. Et pour commencer l'émission, vous allez entendre des témoignages qui ont été recueillis hier soir à la sortie du Palais de Justice de Paris. Procès des attentats du 13 novembre, évidemment. Salut Augustin et à demain.